Bonsoir à tous. Alors, ce soir, nous allons voir un passage dans l'évangile de Matthieu. Donc, si vous pouvez prendre vos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Nous allons essayer de voir ce qu'est la grandeur dans le royaume des cieux. Et donc, on va lire, ce que je vous propose, c'est qu'on lise tout de suite. Donc, évangile de Matthieu, chapitre 18. Et on va lire les 5 premiers versets. Alors, je vais lire. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit-enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit-enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Voilà. Donc c'est le passage que j'ai choisi pour la méditation. J'ai essayer de découper ce passage, ou pas découper, mais j'ai trois parties en fait que je vais vous dire. C'est la première partie, c'est une question qui taraude les disciples. Donc tarauder, ça veut dire une question qui les préoccupe. La deuxième partie, c'est la réponse de Jésus à cette question, qui est le plus grand. Et donc la troisième partie, je l'ai intitulée ce que la réponse de Jésus révèle du cœur des disciples, sur le cœur des disciples. Alors, ce passage, on le retrouve aussi dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, du verset 33 à 37, et ainsi que dans Luc 46 à 48. Donc, on va commencer par la première partie, qui est une question qui taraude les disciples. Alors, pour comprendre pourquoi ça les préoccupe, on va essayer de poser un petit peu le contexte pour expliquer comment ça se passe. Donc ce passage se situe dans Matthieu 18 et dans Matthieu, je crois, 17. Il y a le passage sur le mont, sur Jésus qui arrive sur le mont de la Transfiguration. Donc ça se passe après cet événement. Donc lui, dans Matthieu 18, Jésus et les disciples se retrouvent donc à Capernaum, en Galilée, qui est donc leur quartier général. On dit Jésus de Nazareth, mais il est plus resté à Capernaum avec ses disciples. Et donc, il se retrouve dans une maison, puisqu'on peut le voir dans l'évangile de Marc, chapitre 9, au verset 33, où il est dit, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Donc c'est une étape, puisque Jésus va se rendre à Jérusalem pour y accomplir le sacrifice parfait. Donc c'est peut-être dans la maison de Pierre, ou peut-être dans la maison d'un autre disciple, mais en tout cas il semblerait qu'il y ait des enfants, puisque Jésus appelle un enfant qui fait venir. Donc voici le contexte au niveau du temps et des lieux. On va essayer de voir maintenant un peu l'atmosphère et l'état d'esprit qu'avaient les disciples à ce moment-là. Donc dans Matthieu 16, 21, il est dit « Dès lors, Jésus commença à faire comprendre à ses disciples qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Donc ce sont des choses importantes pour comprendre la mission de Jésus, mais les disciples ne le comprennent pas. Ils n'ont pas l'air de bien comprendre ce que Jésus est en train de leur enseigner sur sa mort et sur sa résurrection. On voit aussi que dans Matthieu 17, au verset 22 et 23, Jésus veut enseigner sur sa mort et sur sa résurrection. Donc je vais lire Matthieu 17, 22, 23. Pendant que Jésus parcourait la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. C'est les disciples qui étaient attristés. Donc on voit à travers ces passages l'incompréhension des disciples. Donc ils sont complètement, ils ne comprennent pas du tout ce que Jésus va faire à Jérusalem. Ils sont complètement hors sujet quelque part. On voit aussi, mais je ne vais pas le lire, mais dans le passage sur les disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs, où ils disent à Jésus, en gros, « Es-tu le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé ?» ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et donc, ils étaient attristés par ce qui était arrivé à Jésus, ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Donc, on peut comprendre leur état d'esprit. Eux, ils s'attendaient à quelque chose, à un royaume terrestre. Ils s'attendaient à ce que Jésus accomplisse quelque chose qui soit de la même teneur que David, qui a libéré, qui s'est battu, etc. Mais on voit que les disciples étaient complètement loin de comprendre la mission terrestre de Jésus. Et donc aussi dans Actes, chapitre 1, verset 6 à 7, « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc on voit à travers ces deux passages, à travers les disciples sur le chemin d'Emmaüs et à travers ce passage dans Actes, que l'œuvre de Jésus était mal comprise et que ils pensaient vraiment que Jésus allait instaurer un règne terrestre. Et c'est dans ce contexte et dans cet état d'esprit que les disciples posent cette question qui est le plus grand dans le royaume. Donc la question en elle-même, c'est qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Alors la question de rang et de statut était importante dans les groupes juifs à cette époque. Donc on cherchait souvent à savoir qui était le plus grand. Mais qu'est-ce qui les a poussés à se poser cette question ? C'est peut-être le fait que Pierre ait vu Jésus sur le mont de la Transfiguration et qu'il a vu aussi Moïse et qu'il a vu Élie. Donc peut-être que ça a suscité cette question de savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et aussi le fait que Jésus, à ce moment-là, il n'ait appelé que trois disciples, c'était Pierre, Jean et Jacques. Donc sur les 12 disciples, il n'en a appelé que trois. Donc peut-être qu'il y a eu une dispute qui s'est installée et qu'ils ont commencé à se demander qui est le plus grand parmi nous. Donc c'est ce qu'on peut penser. Voilà. Et en tout cas, on voit que cette question les préoccupe, parce qu'on voit dans d'autres passages, comme dans Marc, que Jésus vient les voir et il leur demande de quoi parliez-vous en chemin. Donc on voit que c'était vraiment quelque chose qui les travaillait et ils voulaient avoir une réponse. Mais je pense que la réponse qu'ils allaient recevoir n'allait pas leur plaire. En tout cas, on va voir maintenant la réponse du maître aux disciples. Donc Jésus répond dans le but d'enseigner les disciples. On voit dans l'évangile de Marc, chapitre 9, 35, « Alors il s'assit, les appela et leur dit. » Donc la position assise, c'était une position habituelle pour les enseignants juifs. Et n'oublions pas que Jésus était considéré comme un rabbi qui veut dire maître. Et même si cette session de questions-réponses tient dans quelques versets dans ce passage, donc j'imagine que le maître, il a pris son temps pour expliquer et enseigner comme il faut ses disciples. Et maintenant, nous allons voir comment il l'a fait. C'est une façon complètement étonnante, la façon dont il répond. D'abord, il prend une réponse qui est visuelle et vivante. On dit que notre Dieu est un Dieu véritable et vivant, et que sa parole est vivante, mais sa réponse, elle l'est aussi. Jésus aime à expliquer les choses en général du royaume des cieux à travers des paraboles. Mais dans cette réponse, il appelle un petit enfant, il le fait venir à côté de lui, au milieu d'eux. Et imaginez la scène, je pense que ça doit être merveilleux, quoi, de voir comment Jésus répond. Imaginez que j'appelle un enfant, je lui dis viens ici, et l'enfant ne sait même pas pourquoi il vient ici, et il est tout content, il est joyeux, il est souriant, et Jésus le place au milieu pour leur montrer qu'est-ce que la grandeur. Donc on voit un enfant petit et Jésus explique la grandeur aux disciples. Donc on voit déjà des contrastes. Alors l'enfant dans ce passage en grec, c'est païdon. Mais il y a aussi un mot en grec qui est très proche et qui est païs, qui veut dire aussi enfant, mais qui veut dire autre chose. Mais on ne peut pas le distinguer, ça dépend uniquement du contexte, comment ça écrit. Et l'autre signification de ce mot païs, c'est serviteur ou esclave ou un ministre, un serviteur d'un roi. Et donc retenez bien ces deux significations. Je trouve que c'est intéressant de voir que d'un côté, ce mot veut dire enfant et d'un autre côté, ça veut dire serviteur. C'est super intéressant. Les enfants à cette époque, je pense qu'ils n'étaient pas bien considérés, puisqu'on voit dans Marc 10, au verset 13, on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et il leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Donc certainement que les enfants n'étaient pas bien considérés à cette époque. Par exemple, quand Jésus nourrit 5 000 hommes, on compte pas les femmes, on compte pas les enfants. Après, dans différentes cultures, c'est comme ça. Je sais, par exemple, moi, quand j'étais petit, quand les adultes parlaient, nous, on parlait pas avec les adultes. C'est pas quelque chose qui se faisait. On n'était pas du tout au même niveau, les enfants de leur côté, les adultes de leur côté. Et puis aussi aujourd'hui, on parle des enfants rois. Aujourd'hui, on ne leur oppose aucune limite. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc on voit un contraste, en tout cas, dans ces générations voilà, de la non-considération à la super considération. Et donc, c'est donc un enfant que Jésus prend pour illustrer une profonde vérité qui est la conversion. Puisqu'il est dit, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc qu'est-ce que la conversion? Donc la conversion, dans ce passage, il y a le mot stréphos qui veut dire tourner, retourner, détourner. Métaphoriquement, ça veut dire se détourner de son ancienne conduite. Donc on était d'une façon et on change complètement. Donc quand on pense à tourner ou retourner, je pensais à cette image. Imaginez quelqu'un qui marche dans ce sens, dans cette rue, et que je croise au bout de la rue et je lui dis, tu vas où? Et qui me dit, bah, je vais à Pierrefitte. Je lui dis, bah, non, tu ne vas pas dans le bon sens, il faut que tu ailles dans ce sens-là. Donc, pour vous donner une image. Ce que Jésus explique par rapport à la conversion, c'est que les disciples ne sont pas du tout sur la bonne voie, ils ne sont pas sur le bon chemin. Ils ont besoin de se retourner, ils ont besoin de se convertir et de naître de nouveau. Comme ce que Jésus explique à Nicodème dans Jean 3, où il est dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est ce dont ils ont besoin. Eux, ils cherchent à savoir qui est le plus grand, mais ce qu'ils ont besoin vraiment, c'est de se convertir. Jésus révèle aussi un secret, c'est qu'il faut être comme un petit enfant pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Donc on va essayer de voir, voilà. En gros, Jésus ne dit pas que tous les enfants iront au ciel, c'est pas ce qu'il dit, mais ceux qui ressemblent à ces enfants, c'est ceux-là qui iront au ciel. Cela n'empêche pas les enfants de croire et d'être sauvés, comme nous l'avons entendu durant les témoignages. Un enfant peut croire, il peut recevoir le Saint-Esprit, mais ce n'est pas automatique, c'est encore là une grâce de Dieu. Donc avant même de répondre sur la grandeur, Jésus donne la clé pour entrer dans le royaume des cieux. Et c'est beaucoup plus important que de savoir qui est le plus grand sans y entrer. Donc, on peut lire dans Luc 10, 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Donc, c'est beaucoup plus important de donner sa vie à Jésus que de connaître des choses, finalement. Et donc, cette clé qui est de ressembler à un enfant, on va essayer de voir un petit peu le caractère de l'enfant. Donc, on peut dire que les enfants, ils sont facilement enseignables. Donc, il y a quelqu'un qui disait que l'humilité, c'est, peu importe ce qu'on sait, c'est de continuer à être enseignable. Nous, en tant qu'adultes, on arrive et puis on a un CV où il y a marqué notre nom, notre prénom, il y a toute notre expérience, tout ça. Mais un enfant, il arrive avec son CV, il y a juste son nom, son prénom, il y a peut-être une petite fleur, un cœur ou une voiture. Ça, c'est son CV. Donc, il a beaucoup de choses à apprendre. Les enfants, ils veulent apprendre. Ils sont pauvres en esprit. Et Jésus dit sur le sermon de la montagne, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Donc, on a besoin d'avoir cette attitude, de vouloir connaître davantage la parole. Ils font confiance. Une fois, j'avais une personne qui m'avait raconté une histoire et j'ai trouvé ça intéressant. Peut-être je vais vous la raconter. C'est que il parlait de sa petite fille et elle va voir son papa et elle veut son yaourt ou elle veut son dessert. Et le papa, il ouvre le frigo et puis il dit, tu vois, il y a ton dessert, il est là. Donc la petite fille, elle est là, elle voit pas le dessert, mais elle lui fait confiance. Elle sait qu'il est là, elle sait que le papa va pourvoir. Donc nous aussi, nous devons faire confiance à Dieu dans sa parole et dans ses promesses. Les enfants croient à ce qu'on leur raconte à cause de leur innocence et de leur pureté. Et nous aussi, nous devons croire à l'évangile et à la parole de Dieu. Ce que veut dire se rendre humble comme un enfant. Humble dans ce passage, c'est le mot taipeno qui veut dire amener à une condition humble, se conduire sans prétention, être dénué de toute arrogance. Et Jésus répond maintenant à la question. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume. La clé ou le secret de la grandeur dans le royaume est donc de se rabaisser et de devenir comme un enfant, et cela nous rendra plus grands. Et enfin, il y a ce passage qui dit « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Donc nous devons donc faire preuve d'hospitalité, ce passage parle d'hospitalité, et nous devons nous recevoir simplement, comme lorsque on reçoit un enfant, avec joie et simplicité. Il n'y a pas plus à dire. Lorsqu'on voit un enfant, on est soyons naturels et puis recevons-nous entre nous avec toute cette simplicité. N'oublions pas que nous sommes ambassadeurs de Christ qui vit en nous. 2 Corinthiens 5, 20 dit « Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ ». Donc lorsque nous nous recevons, recevons-nous comme des enfants et n'oublions pas que nous recevons des frères pour qui Jésus a versé son sang. Donc c'était les deux premières parties. Maintenant la dernière partie, c'est Jésus, la réponse de Jésus révèle le cœur des disciples. Donc on voit que dans ces versets, Jésus ne répond pas directement à la question. Il parle d'abord du salut, puisque c'est ce qui est essentiel. Mais cependant, Jésus sait discerner ce qu'il y a derrière la question. Et cette question, elle laisse transparaître l'orgueil. Donc par sa réponse, Jésus révèle que la question des disciples démontre leur orgueil aussi, qui va justement à l'encontre de l'humilité qui est nécessaire aux chrétiens. Il faut donc que les disciples se convertissent et qu'ils se détournent de leur trajectoire actuelle. Le besoin premier est donc d'être sauvé, c'est le salut, et c'est pour cela que leur cœur doit être transformé et ressembler à cet enfant. Et n'oublions pas que le premier péché, c'est l'orgueil. Satan, c'était le plus grand après Dieu dans les cieux et il a voulu prendre sa place et il a été précipité. On peut le lire dans Ésaïe 14, 13, mais je ne vais pas le lire. Et on peut voir aussi le premier péché, c'était dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève ont voulu être comme Dieu. Donc, on est naturellement orgueilleux, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de travailler. Notre cœur est orgueilleux de base. Voilà, donc je vous propose de conclure avec quelques points d'application. Alors, le premier point d'application, c'est « Sommes-nous convertis ?» Est-ce que aujourd'hui vous avez donné votre vie à Christ ? J'espère que c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, tournons-nous, opérons un demi-tour et acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Dans l'ordre des priorités, c'est la première chose que nous devons faire. Jésus encourage les disciples à le faire et je vous encourage aussi à le faire si ce n'est pas votre cas. 1 Pierre 2, 2 dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Sommes-nous nés de nouveau ? Désirons-nous le lait spirituel, le lait pur ? Ensuite, sondons nos cœurs pour voir si nous faisons preuve d'humilité ou d'orgueil. Donc, comme on l'a dit, l'orgueil est naturel. Mais l'humilité demande un cœur transformé. On n'a pas besoin d'être encouragé à être orgueilleux, ça vient naturellement. On veut toujours être reconnu pour ce qu'on a fait. Mais pour se rendre humble, c'est vraiment le fruit de la grâce de Dieu qui opère en nous et qui agit en nous. Dans Ézéchiel 36, 26, il est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Dieu nous a fait cette promesse et nous pouvons prier sur cette promesse. Que Dieu transforme notre cœur. Laissons-nous façonner par la parole de Dieu. Comme Jean-Baptiste l'a dit, et on l'a entendu aussi dimanche, il faut qu'il augmente et que je diminue. Matthieu 11, 29 dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc soyons transformés à son image. Sachons recevoir les frères et les sœurs comme si nous recevions des enfants, c'est-à-dire avec joie, avec amour, avec simplicité, et que Dieu nous donne un cœur pour cela. Donc, en général, tout le monde aime les enfants. Après, il y a peut-être des gens qui disent « Ah, moi, j'aime pas les enfants, ils viennent, ils font du bruit, ils font la pagaille, etc. » Mais qu'on puisse voilà, avoir ce cœur de nous recevoir les uns les autres, comme il se doit, comme des enfants, et en toute simplicité. Encore un point d'application, comme Jésus, sachons discerner ce qui se cache derrière une question. Là, on a vu dans cette question que Jésus, il a discerné que c'était de l'orgueil qui se cachait, et il a répondu avec beaucoup de sagesse. Et nous, notre but, ce n'est pas de répondre à toutes les questions. Mais il y a des questions, peut-être on n'a pas besoin d'y répondre. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout le monde a besoin d'être sauvé et on a besoin d'annoncer l'évangile et c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais voilà, toutes les questions n'ont pas vocation à être répondues, je pense. On voit aussi dans ce passage que nous devons être comme Jésus qui a gardé son calme. Imaginez Jésus qui sait qu'il va aller à la croix, qui a fait tant de choses, et là on vient lui poser la question, savoir qui est le plus grand. Je pense qu'un point d'application, c'est de toujours garder son calme. Parce que, je ne sais pas, mais moi, si j'étais peut-être dans un état de où la coupe est pleine et que des fois, il suffit d'une petite goutte d'eau pour faire déborder le vase, on peut s'emporter et répondre de façon... voilà, on peut ne pas garder son calme et répondre d'une façon qui n'est pas bonne. Mais on voit que Jésus, il a vraiment répondu avec sagesse, avec calme, et dans le but d'instruire et d'enseigner. Et enfin, soyons aussi et surtout des serviteurs. Dans le royaume de Dieu, on accède à la prééminence par le sacrifice et le don de soi. Quand Jésus enseigne les disciples, dans Luc 9, 23, il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Donc c'est ça dans le royaume de Dieu, c'est le sacrifice, c'est le don de soi qui est beaucoup plus important. Et c'est ça qui fait la grandeur. Jésus dit dans Marc 10, 43-44, qu'il est venu pour servir et non pour être servi. Nous voyons l'exemple suprême du Maître qui est le Créateur du ciel et de la terre et qui s'abaisse jusqu'à essuyer les pieds des disciples pour leur donner l'exemple. Nous devons donc nous humilier car la grandeur du royaume ne consiste pas à avoir une position élevée et à être servi, mais à servir les autres. Aussi, le meilleur moyen de lutter contre l'orgueil est de servir. Et la vraie grandeur, finalement, c'est de servir. Et c'est pour ça que j'ai donné au titre de ma méditation « Servir est la vraie grandeur ». Voilà, merci.